Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment faciliter l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs? On en parle aujourd'hui dans cette émission avec le professeur Dédé Aliango, secrétaire général académique de Leadership Academia et spécialiste en inclusion financière, entrepreneuriat et développement. Professeur Dédé Aliango, bonjour.
Bonjour, monsieur Nkachama.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. On vous retrouve dans quelques instants. Des questions et préoccupations, les standards sont déjà ouverts. Composez le 099-706-9941. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler du projet Star Est. Le projet Star Est, c'est tout simplement le projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la République démocratique du Congo. Quel bilan on peut dresser aujourd'hui et quelles sont les perspectives? Madame Brigitte Kapinga Saouda, coordonnateur général de ce projet, sera notre invitée à partir de 11h05 heure de Kinshasa. Billy Landry Betou assure la mise en onde de cette émission. Jonathan Chimanga s'occupe des plateformes digitales. Tati Mapoukou est à la coordination et à la réalisation. Au micro, Jody Daniel Nkachama. Bienvenue à tous.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Bienvenue encore une fois dans votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous allons parler aujourd'hui du financement. Comment faciliter l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs? Vous savez, de nombreux jeunes entrepreneurs congolais ont du mal à accéder au financement pour booster leurs projets. C'est là à cause des exigences des banques qui sont parfois inaccessibles et l'instabilité du climat des affaires, une faible structuration du système financier selon les experts. Alors du côté des banques, les exigences ne sont pas toujours accessibles. Elles renforcent les conditions d'octroi des crédits, augmentent le taux d'intérêt ou exigent des garanties, etc. Par ailleurs, les échéances des remboursements sont très très courtes. Alors les entrepreneurs financent eux-mêmes leurs activités, d'autres recourent au crédit informel qui ne garantissent pas toujours l'épanouissement de leurs entreprises. Alors quels sont les autres mécanismes de financement à promouvoir pour aider nos jeunes entrepreneurs? On en parle aujourd'hui avec le professeur Dédé Aliango, qui est spécialiste en inclusion financière, entrepreneuriat et développement. Professeur Dédé, la première question est de savoir pourquoi il y a tant de barrières ou de difficultés à accéder au financement dans notre pays par les jeunes entrepreneurs.
Alors, merci beaucoup pour la parole. Il faut déjà se dire que un jeune entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une idée et qui veut traduire cette idée-là en entreprise. Mmh. Et donc, il lui faut une expérience, il lui faut des compétences, il lui faut des moyens et les financements viennent être vraiment de moyens, on va dire, financiers dont il a besoin pour commencer l'exploitation de son idée.
Oui.
Le problème, c'est que, comme je disais, il lui faut une expérience. En amont, il n'a pas d'expérience. Il vient peut-être de l'université ou peut-être que c'est un jeune qui s'est débrouillé et qui a une très bonne idée pour changer la société ou répondre à un besoin de la société, mais qui n'a pas de moyens. La banque, c'est une institution financière qui, évidemment, va prendre des ressources au niveau des agents en capacité de financement pour les amener vers les agents en besoin de financement. Mais elle a besoin des garanties. Elle a besoin de gérer les risques parce que toute activité, les risques est inhérent à toute activité de crédit. Et donc, puisque les risques est là, l'institution financière doit choisir. Est-ce que elle accepte les risques ou est-ce qu'elle rejette les risques? D'accord? Mm-hmm. Si le risque est trop élevé, elle ne prend pas les risques. Puisque si le risque arrive à se réaliser, c'est quoi? C'est les défauts de paiement. Et les défauts de paiement va être une difficulté qu'elle, elle va connaître elle-même.
Oui.
Et les entrepreneurs n'ont pas souvent des garanties suffisantes. Ils représentent souvent les risques élevés à cause de ce manque d'expérience.
D'expérience et des garanties.
Expérience en matière d'affaires, garantie, mais aussi expérience en matière de gestion de crédit. Ce sont souvent des personnes qui n'ont pas encore eu cette expérience de demander les crédits, gérer les crédits, rembourser les crédits.
Il semble que d'autres vont se marier avec l'agent de crédit.
Ah, c'est ça. C'est ça qu'on appelle le détournement de crédit.
Oui.
Et donc, du coup, face à tous ces éléments-là, la banque ou l'institution financière va se poser la question, est-ce que j'octroie ces crédits ou pas? Et en plus, il y a aussi les risques liés à l'activité. Parce que l'activité elle-même n'a pas d'expérience non plus.
On ne sait pas si ça va donner,
si ça va marcher ou ça ne va pas marcher.
Oui.
Vous voyez, donc, il y a énormément d'éléments qui retiennent les institutions financières de financer les, surtout les primo-entrepreneurs, de les financer.
Les start-up.
Voilà, il n'y a pas d'expérience. Voilà pourquoi est-ce que les institutions financières résistent. Et j'ajoute un élément très important lié à notre contexte congolais. C'est qu'il y a énormément d'asymétrie d'informations. Quand je dis asymétrie d'informations, c'est que les informations sont soit inexactes, soit alors incomplètes. Et vous savez que déjà, nous avons le souci avec la carte d'identité. Déjà, pour nous identifier, c'est un problème.
C'est un problème.
On peut quitter une commune à une autre sans avertir personne. C'est difficile de nous localiser.
Oui.
Vous voyez? Et tout ça, ça rajoute encore un élément du risque. Du coup, si une banque décide d'octroyer les crédits, ça va être un taux d'intérêt très élevé. Beaucoup de gens se plaignent qu'au Congo, le taux d'intérêt est très élevé.
Très élevé.
Voici
oui.
les raisons. Parce que la banque doit rémunérer ces risques-là. Et il les rémunère.
Donc, c'est un problème de confiance.
Oui, il y a tout dedans. Comment elle rémunère les risques? Ben, en ramenant le taux d'intérêt élevé, parce que dans le taux d'intérêt, il y a plusieurs éléments, notamment le facteur risque qui est considéré.
Alors, vous avez participé dernièrement à la table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. À l'issue de cette table ronde, voilà, je pense que vous avez même dirigé tout un atelier par rapport au financement. Alors, un pacte a été élaboré à la fin. Mais qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que vous avez proposé pour voilà un alternatif par rapport à cette difficulté d'accès au financement?
Oui. La table ronde était là pour réfléchir sur les mécanismes, les stratégies pour améliorer d'abord l'emploi pour les jeunes et puis l'entrepreneuriat. Quand on parle de l'entrepreneuriat, ben on voit tous les aspects de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas que le financement, il y a la formation, il y a l'éducation financière, il y a même comment est-ce qu'on peut avoir accès au marché et toutes ces choses-là. Et donc, moi, j'ai participé à l'atelier sur l'entrepreneuriat et l'accès au financement. Et dans cet atelier, on était en train d'aborder la question de financement. La plupart de personnes étaient orientées financement par l'État, à travers le FOGEC, à travers les FSPJ, okay, qui sont de fonds qui sont là pour le jeune. Et c'est à ces moments-là que je vais leur dire, écoutez, c'est vrai que ces mécanismes-là viennent soutenir les entrepreneurs, mais il n'y a pas que ça. Si on veut vraiment créer des entreprises solides, il faut le capital à la base. Il faut des capitaux aussi solides. On ne construit pas, on ne développe pas une entreprise juste avec un kit de démarrage. C'est très bien, mais il faut des capitaux solides. Et donc, tout le monde était là, mais professeur, les banques, les banques ne nous donnent pas des crédits, vous nous proposez...
Des capitaux solides.
Voilà. Vous nous proposez quoi?
Quoi à la place,
et donc, j'ai proposé des financements alternatifs.
Okay.
Et ça a touché et nous avions eu l'occasion et vraiment cette opportunité-là de rencontrer les chefs de l'État dans cet atelier-là.
Mmh.
Il est venu et il fallait qu'on lui fasse des propositions. Et donc, quand on m'a donné la parole, et je vais commencer par ça, parce qu'il l'a repris dans son discours sur le pacte
de l'État de la Nation.
Oui, de l'État. Okay. Voilà. Je lui ai dit, monsieur le chef de l'État, tout ce que l'introduction, et puis j'ai dit, il y a une citation de Georges Bernard Shaw qui dit ceci. Certains regardent le monde tel qu'il est et se posent la question pourquoi. Ce sont des passifs qui se posent juste la question de pourquoi. Ils s'accommodent à cet existant-là qui ne tient pas. Mmh. Ils avancent. Et d'autres imaginent le monde tel qu'il devrait être et se disent pourquoi pas. Et là, ce sont des actifs qui veulent le changement de cet existant qui n'est plus tenable. Mmh. Et je pense qu'en nous réunissant autour de la table ronde, monsieur le chef de l'État a voulu qu'on imagine les secteurs de l'emploi, les secteurs de l'entrepreneuriat tels qu'ils devraient être pour atteindre les objectifs de l'État et aussi atteindre sa vision. Il a très apprécié et il l'a repris dans son discours. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai imaginé quelque chose qui existait déjà sous d'autres cieux, mais comment est-ce qu'on pouvait l'appliquer ici chez nous? Parce que vous savez, la plupart de propositions que nous faisons échouent parce qu'on prend les histoires telles que appliquées
ailleurs sans tenir
compte du contexte
local.
Et je suis vraiment parmi les personnes qui insistent sur le contexte local.
Voilà. Alors, c'est quoi le financement alternatif?
Alors, les financements alternatifs sont des financements qui sortent du circuit bancaire classique, qui sortent des institutions financières classiques. Alternatifs, qui est tout simplement comme une, on va dire quoi, en dehors de ce qui est classique.
Oui.
Comme les banques ne savent pas financer les jeunes entrepreneurs, ou peuvent les financer, mais avec des taux d'intérêt élevés, en telle enseigne que ceux-ci seront pratiquement en train de travailler que pour rembourser ces crédits-là,
mm-hmm.
Il faut penser à autre chose. Il faut imaginer autre chose.
Comme quoi?
Alors, comme les financements alternatifs. Alors, quels sont, c'est quoi le
c'est quoi le financement? Voilà, c'est ça la grande
question. Qui sort de l'ordinaire. Dans le financement alternatif, il y a plusieurs types de financement. Par exemple, on peut avoir ce qu'on appelle les capital risques. D'accord? Mais les capital risques, c'est tout simplement un financement qu'on mobilise pour des projets innovants, mais avec un risque très élevé. Et donc, ce genre de projets, on y croit, mais ce sont des projets que les banques classiques ne savent pas financer à cause du niveau des risques. Mais s'il y a des investisseurs qui croient en ces projets, vous savez que quand le risque est élevé, la rentabilité aussi peut être élevée.
Peut être élevée aussi.
Voilà. Donc du coup, c'est le capital risque qui s'occupe de ce genre de projet-là. Mais généralement, le capital risque est offert par ce qu'on appelle les OPC, les organismes de placement commun, qui sont liés au marché des capitaux, que nous n'avons pas en RDC. Mais certaines... entreprises, structures peuvent porter ça. Par exemple, le compagnie d'assurance. Ils peuvent porter ça parce que ils ont de l'épargne à travers, par exemple, l'assurance vie et tout ça. Mmh. Et donc, ils peuvent porter ces genres de produits ou d'instruments financiers. Ça, c'est une chose.
Et comment ça se passe? Ils voient les projets des jeunes entrepreneurs ils donnent l'argent.
Non, il faut présenter les projets. Ah, c'est un grand processus, hein.
Oui.
Il faut présenter les projets, on doit faire l'examen du projet, on doit voir le business model derrière ce projet-là, le business plan avec la rentabilité du modèle et vraiment comment est-ce que ça peut être répliqué sur en long terme. Mmh. Donc, on fait toute une analyse approfondie de montage financier pour savoir si on peut investir dedans ou pas. C'est assez compliqué.
Mmh.
Mais il y a autre chose qu'on appelle...
Et quand on vous donne cet argent, vous allez rembourser? Avec,
avec le capital risque.
Oui.
Oui.
Avec intérêt ou pas?
Tout dépend. Tout dépend du montage que vous faites derrière.
D'accord.
Ok. Le capital risque peut prendre participation dans votre entreprise. Et donc là, ça ne sera plus les intérêts, ça sera les dividendes.
D'accord.
Ça va? Mm-hmm. Alors, les financements alternatifs. Dans le financement alternatif, on trouve aussi les financements participatif. Et moi, c'est ce que je proposais au chef de l'État et j'ai proposé, je propose ici en RDC. Alors, c'est quoi le financement participatif? Le financement participatif sont tout simplement des financements que l'on obtient au niveau de la population. Ce ne sont plus les institutions financières. En fait, la population se transforme en investisseur.
Okay.
Vous, comme moi, mm-hmm. je peux avoir mes $50, je peux avoir mes $100, je peux avoir mes $200,000. Et j'ai dit, je crois en ces projets, je finance ce projet. Vous voyez? C'est le modèle P2P. Personne à personne.
Personne à personne. OK.
OK. Alors, différentes sortes de financement participatif existent.
On parle aussi des business angels. Est-ce que ce sont
oui.
ces personnes-là?
Non, pas. On n'est pas encore là.
On n'est pas encore là.
Les business angels font partie des financements alternatifs. Ce sont des personnes qui sont des entrepreneurs à succès qui peuvent soutenir les jeunes entrepreneurs dans okay. leur voilà le business angels. Il y a aussi les love money parce qu'avec les love money c'est vraiment de l'argent que vous recevez de la famille, des amis et tout ça
qui
peuvent voilà qui peuvent financer. Tout ça c'est dans les financements alternatifs. Mais moi c'est dont je parle ici c'est les financements participatifs. Alors dans le financement participatif ce qui est connu c'est les crowdfunding où c'est une levée des fonds de dons. Par rapport à un projet qui est présenté généralement sur une plateforme et vous venez bon voilà lui apporter vos dons $50, $100, $200, $100,000, $1,000,000, tout dépend de ce que vous avez et comment vous voulez contribuer à ces projets-là. Généralement ça doit être des projets innovants et d'intérêt pour la société. Alors, dans
un instant,
cas,
professeur, on va, les auditeurs appellent déjà. On a un premier auditeur en ligne. Il s'appelle Platini Mbombo. Il nous appelle depuis la ville de Mbandaka.
Wow.
Voilà. Platini, bonjour.
Bonjour, Platini.
Je dis bonjour, je salue l'invité.
On vous écoute.
Voilà. Merci aujourd'hui. Je pense que j'étais au cours de la route. Je sais pas si vous pouvez quand même nous rappeler encore le sujet là.
Oh, vous n'avez. Alors nous parlons du financement. Comment faciliter l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cela?
Voilà. Merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est l'un des discours du chef de l'État hier au niveau de la parole du peuple. On a tous suivi. Je pense qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise ça pose un sérieux problème. Moi, je voudrais justement poser la question, parce que ce ne serait pas trop kilométrique, sur l'invité pour, si l'invité peut nous dire quels sont les mécanismes maintenant, le mécanisme, parce que maintenant là, nous sommes presque à la fin de 2025, quels sont les mécanismes mis en place pour promouvoir la jeunesse congolaise dans le cadre de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que lui pense? Parce que d'ici là, nous allons entrer dans une nouvelle année. Mais qu'est-ce que l'invité peut nous éclaircir? C'est tout nous, la jeunesse congolaise.
Voilà, évidemment, l'invité est en train de parler du financement, des types de financement alternatifs et des financements participatifs. Alors suivez, vous allez en savoir un peu plus tout à l'heure. Professeur Dédé.
Oui, monsieur Platini.
Monsieur Platini.
Merci beaucoup pour votre question. En tout cas, pour l'instant, tout ce que moi je peux vous proposer, c'est déjà ces pactes national sur l'emploi et l'entrepreneuriat que les chefs de l'État portent. Il s'est engagé à vraiment promouvoir cela. Mais ça découle de quoi? Ça découle d'une table ronde où le Congolais, les jeunes qui sont venus de toutes les provinces se sont réunis avec nous, les experts, pour essayer un peu d'explorer en fait ces deux secteurs-là, de savoir quels sont les défis et quelles sont les stratégies à mettre en place. Et donc l'idée ici, c'est que on fasse du secteur d'emploi et de l'entrepreneuriat, vraiment un secteur au cœur de politique publique à travers le pacte national sur l'emploi et l'entrepreneuriat. Donc je ferme cette parenthèse-là. Ça, c'est déjà ce qu'on est en train de faire pour les jeunes. On réfléchit pour les jeunes. Et moi, je suis là aussi pour apporter une réflexion sur le financement de ces jeunes-là. Alors, j'étais en train de parler de crowdfunding. Donc, ça, c'est la levée de fonds. C'est un don. Et généralement, il n'y a pas de contrepartie. En France, par exemple, il y a une start-up qui a commencé à produire des montres intelligentes. Elle a demandé, elle avait besoin de 200 000 euros. On lui a donné 1 million et quelques euros tellement les gens ont cru
à ce projet-là.
Et ce que la start-up a fait, c'est que tous ceux qui ont contribué pouvaient acheter la montre à 99 euros au lieu de 150 euros comme sur le marché. Okay. Vous voyez? Donc, c'est pas vraiment un avantage très grand. Mais c'est une reconnaissance.
Et ça, comment s'est fait cette levée de fonds? C'était en ligne?
Oui,
ou,
en ligne sur une plateforme qui est dédiée à ça. Et donc, c'est vraiment des experts qui sont là derrière. Et vous venez, vous déposez vous avez en ligne, il y a tout, hein, le compte que vous allez déposer, comment vous allez souscrire, comment tout est là-dedans.
L'entreprise a présenté le projet, ils ont fait des vidéos, voilà.
Oui, ils ont fait les pitchs, voilà, tout ce qu'il faut. Et ça a captivé. Et les Congolais, moi je suis professeur. J'ai dirigé cette année, parce que c'est la première année où on est vraiment entré dans les projets tutorés. Mmh. J'ai dirigé des projets tutorés. J'ai été membre du jury pour la défense de projets tutorés. Je peux vous dire que nos jeunes sont ingénieux.
Ils ont des idées formidables.
Ils réfléchissent vraiment sur le problème que nous connaissons dans notre société. Mmh. Et ils peuvent apporter des réponses à ces problèmes-là. Mais à chaque fois, on s'est dit, mon Dieu, quel projet! On peut encadrer ces projets et développer ces projets.
Mais d'autres n'aiment pas présenter leur projet parce qu'ils ont peur que quelqu'un d'autre peut voler le projet. Et puis,
Oui, ça c'est vrai. Mmh. Mais je pense qu'au niveau des universités, par exemple, la Leadership Academy University, nous mettons en place un incubateur universitaire d'entreprise pour encadrer ces projets-là. Donc, ça sera vraiment dans un cadre précis, amener dès l'idée jusqu'à un projet bancable. Je ferme la parenthèse. Deuxième type de financement participatif. C'est ce qu'on appelle le crowdlending. Alors, crowdlending n'est rien d'autre que les prêts participatifs. Donc, on n'est plus dans le sens de don, on est maintenant dans les prêts entre personnes. Je crois en ton projet, je vois ton projet sur la plateforme, je me dis, moi, je vais faire un prêt à ce monsieur pour développer, ou à cette dame pour développer ces projets-là. Mmh.
Parce qu'il y a parfois des gens qui ont des moyens, qui ont de l'argent, ils savent pas quoi en
faire. Ils savent pas quoi en faire. Oui. Moi, j'ai été, par exemple, en Belgique, j'ai discuté avec les femmes de l'UBB, elles m'ont dit, ben, nous, on attend que ça. Nous voulons aller investir au pays. Elles étaient nombreuses, plus d'une centaine de femmes. Nous voulons aller investir au pays, mais le problème, c'est que on n'a pas des garanties comment on va les faire. Qui va sécuriser notre investissement?
C'est ça.
Donc, il y a des fonds qui sont là, mais on ne sait pas comment
les capter,
diriger vers les entrepreneurs. C'est pourquoi j'insiste sur cette histoire de financement participatif. Alors, le crowdlending.
Un instant, professeur, les auditeurs sont là avec leurs questions. Pascal, vous êtes à Kisangani, Dieudonné Fataki aussi, et dans la même ville, et Persévérance Mbombo à Mbandaka. Pascal, depuis Kisangani, Boyoma, bonjour.
Oui, bonjour à vous, Patrick. Moi, Pascal, je suis étudiant à l'université de Kisangani. Je salue l'invité. En fait, j'ai une question à poser à la professeure. Madame, vous cherchez à être plus technique quand vous êtes spécialiste et de nous un peu à expliquer clairement. Mm-hmm. Ma première question est de savoir, est-ce que entre les banques, le BCC, la Rambanque, Equity, quelle banque qui peut accorder les crédits à quelqu'un qui veut avoir le financement pour développer son entreprise ou pour marquer le business? Mm-hmm. Est-ce qu'il faut d'abord, identifier, elle a posé le problème d'identification. Quels sont les préalables pour s'identifier, en fait? Est-ce qu'il faut avoir la carte de l'extérieur? Parce que dans ce pays, on a seulement la carte de l'extérieur comme carte d'identité. Voilà, c'est qu'elle nous explique un peu clair à ce niveau de ça.
Bien, merci Pascal pour vos préoccupations. Dieudonné Fataki, qui vous êtes aussi à Kisangani, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
On vous écoute.
Merci de m'avoir associé à ce niveau de débat. c'est un sujet très, très, très bien, très intéressant. Ben, ce que nous demandons au gouvernement, c'est juste d'être vrai. Parce que je n'ai pas la première d'avoir des initiatives ainsi. Bon, juste deux petites questions à poser à notre invité. La première est de savoir comment ces jeunes sont recrutés. C'est-à-dire, quels sont les critères de recrutement de ces jeunes entrepreneurs?
Pour les recruter,
la première question est...
Les recrutements, dans quelle organisation, je veux dire? Parce qu'ici, on ne parle pas des recrutements, on parle plutôt du financement. Comment faciliter l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs?
Oui, bien sûr, mais je pense que ce sont des jeunes qui ont été sélectionnés avec des projets, et comme ça, ils vont étudier les projets pour voir de quelle manière ils peuvent financer. Je pense que c'est ça.
Bien, l'invité nous le dira s'il y a déjà des jeunes sélectionnés. On le saura tout à l'heure. Deuxième question.
Oui, la seconde question est de savoir si ils prennent combien de jeunes par ville ou par province. C'est un peu ça. Donc, c'est des petites questions que j'ai à poser à l'invité. Merci beaucoup.
Bien. Persévérance Mbombo de Mbandaka, bonjour. Bonjour, Persévérance. Allô? Allô? Bon, Persévérance n'a pas beaucoup persévéré. Hein? Professeur, Persévérance, vous êtes là? Non, pas du tout. Professeur Dédé, vous avez la parole.
Alors, je commence par la première question sur l'identification. Mm-hmm. Comment doit-on nous identifier? Vous savez, nous sommes citoyens congolais et nous avons ces droits-là d'avoir notre carte d'identité. Ça veut dire, ça peut être une carte d'identité actuellement, c'est avec puce. La puce contient toutes les informations qui te concernent. Et cette carte d'identité, je sais que les efforts sont en train d'être faits, hein, au niveau du gouvernement, pour nous produire ces cartes d'identité. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore disponible. Alors, puisque ce n'est pas encore disponible, nous avons des cartes d'électeurs. Ces cartes d'électeurs, pour certains qui ont de la chance, ça tient encore. Mmh. Pour d'autres, ça s'est effacé. Oui. On ne voit même plus. Moi, on voit mon nom, mais on ne voit plus le visage. Le visage qui est là.
Vous pouvez aller chercher les duplicata. Hein. La CENI,
voilà. La CENI est là. Et ouais. Elle peut délivrer les duplicata. Mmh. Mais on est face à cette réalité-là.
Oui. Donc, il y a les passeports, il y a les permis de conduire.
Tout le monde
aussi.
N'a pas le passeport. Il faut rentrer dans notre contexte. C'est pourquoi je disais tantôt qu'il faut vraiment se mettre dans notre contexte. Oui. Ça veut dire que tout le monde. En fait, on n'a pas cette culture de se dire je dois avoir mon passeport. Le passeport, on le cherche quand on veut voyager.
Quand on veut voyager, oui.
Vous voyez, ça, c'est un souci. Bon, maintenant, j'ai vu qu'il y avait aussi des efforts pour diminuer les prix de passeport et éviter le passage d'une main à une autre pour que ça n'augmente pas ces coûts-là. Ça, ce sont des efforts qui sont en train d'être faits. Mais on a encore du mal à nous identifier. Vous imaginez quelqu'un qui habite Kinshasa. Je connais ces cas-là. Qui habite Kinshasa, mais qui était en mission pendant les enrôlements. Et qui a fait sa carte dans la province où
il s'est
enrôlé là-bas. Mmh. Aujourd'hui, il se retrouve à Kinshasa. Il va dans une banque. Il présente sa carte avec une adresse d'une autre province.
D'une autre province, oui.
Et puis, il dit dans sa bouche, il donne une autre adresse ici à Kinshasa. D'accord? Comment être sûr que vous habitez réellement à cet endroit-là? Nous n'avons pas une loi, ou peut-être qu'elle existe, mais qu'on ne met pas en pratique, où quand tu quittes une commune à une autre, tu as autant de jours pour aller te signaler dans cette commune-là, pour qu'on sache que tu es là-bas.
Qu'on puisse actualiser les informations.
Vous voyez, mon cher ami. Donc, on a un problème d'identification. Vous êtes jeune, vous venez de finir l'université, vous avez un très bon projet. Mais vous n'avez pas encore essayé ce projet, vous n'avez pas une expérience avec le marché. Et déjà, on n'est pas sûr que votre projet, même s'il répond à un besoin, il y a une demande pour ce projet-là. Vous voyez? Et donc, toutes ces questions-là, ce sont des questions que les institutions financières se posent. Si vous vous mettez du point de vue des institutions financières, vous allez vous poser ces questions-là. Et c'est ça qui rend difficile la chose. Alors, je vais passer à la deuxième question. par rapport à notre ami qui demande comment on choisit ces jeunes. Ici, on n'est pas en train de parler d'un mécanisme ou alors d'une structure qui va choisir les jeunes et puis qui va leur donner des financements. Non. Nous sommes en train de parler d'un modèle de financement que l'on doit implémenter en République démocratique du Congo pour pallier au problème de financement de l'entrepreneuriat de jeunes. Parce que ce modèle-là n'existe pas encore ici chez nous. Mmh. C'est pourquoi on en parle. On a parlé de crowdfunding, maintenant on était en train de parler de crowdlending, qui sont des prêts. Ça veut dire que si vous êtes jeune, vous avez un très bon projet, et que ce modèle-là est implémenté en RDC, donc vous allez vous rapprocher de ces plateformes-là ou de ces structures-là, vous allez proposer votre projet, vous allez faire votre pitch, donc vous présentez votre projet avec émotion, avec tous les avantages, les bénéfices.
Pour convaincre.
Pour convaincre.
Oui.
Et puis les gens vont se dire, par exemple, Monsieur Jody va dire, ben moi je vais prendre 2 000 $, je vais donner à ton projet. Je te fais un prêt, c'est crowdlending, un prêt. Et donc vous allez emprunter en fait de l'argent, mais à travers la plateforme. On dépose les prêts jusqu'à atteindre les capitales. Comment maintenant le remboursement s'est fait?
Voilà, c'est ça la grande question.
La grande question. Alors le prêt s'est fait à un taux d'intérêt précis. On précise les taux d'intérêt. Et les gens viennent déposer leur argent. Et la plateforme vous enregistre. Monsieur Jody a donné 1 000 $. Par exemple, le taux, c'est 5% l'an. Mmh. OK? Donc, on vous met là. Dès que la personne commence son activité, le premier cash flow arrive, sachant que le cash flow, c'est vraiment la différence entre le chiffre d'affaires et les charges qu'il faut.
Oui.
Et donc, dès que le premier cash flow fait, parce que dans les charges, il y a aussi les charges financières. Mmh. Donc, il défalque de son chiffre d'affaires les charges financières. Il le transmet à la plateforme qui, tout de suite, fait le dispatching entre tous les prêteurs. On vous rembourse votre argent.
Votre argent.
Vous avez mis un numéro de compte, ben ça tombe dans votre numéro de compte. Dans votre
avec
compte.
Un intérêt ou sans intérêt?
C'est l'intérêt, oui. Ah, okay. Il y a avec un intérêt. J'ai avec dit 5%. Non?
Ah, d'accord.
Voilà. Selon le modalité de remboursement. Mmh. Vous voyez? Ce qui est avantageux, c'est que vous n'avez pas eu à aller dans une institution financière faire tout ce qu'il faut, due diligence et tout ce qu'il faut là, l'examen de dossier et tout. Deuxièmement, vous n'avez pas un taux d'intérêt élevé parce que les taux d'intérêt de crowdlending sont plus compétitifs. Ça veut dire que ce sont des taux plus bas que les taux des banques. Et puis troisièmement, vous avez des personnes de bonne volonté qui vous donnent le temps. Le remboursement n'intervient pas directement le premier mois ou alors...
Il y a d'autres qui sont patients, voilà, travailler.
Voilà. Ouais. Et donc, vous voyez, vous avez le temps de travailler, de fructifier cet argent et d'avoir suffisamment le moyen pour rembourser. Mais pour ça, il y a aussi la fiscalité qui doit être allégée. Je vais en venir par la suite, je vais parler de la réglementation. Mmh. Et enfin, le troisième, c'est le crowd equity. Le crowd equity, c'est une forme d'actionnariat participatif. Ça veut dire qu'au lieu que je te fasse un prêt, qu'est-ce que je fais? Je prends participation dans ton entreprise. Je dis, ça m'intéresse tellement. Et donc, moi, je vais devenir actionnaire.
Actionnaire, ok.
Voilà. OK. Mm-hmm. Et donc là, il y aura des actionnaires sur la plateforme et quand la société ou l'entreprise commence à fonctionner, dès qu'il y a les premiers bénéfices dégagés, ben les dividendes vont être partagés au prorata des mises.
Oui.
OK. Mm-hmm. Et là aussi, même pour ça aussi, il faut alléger la fiscalité pour encourager une personne lambda et la population, tout le monde, d'investir là-dedans. Quel est l'avantage dans tout ça? L'avantage, déjà, on va mobiliser suffisamment des capitaux pour des entreprises, pour développer des entreprises solides. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on va créer de l'emploi et on va créer des revenus pour cet entrepreneur et pour toute son équipe. Troisièmement, on crée une catégorie d'acteurs, les investisseurs individuels. Ce ne sont plus des investisseurs institutionnels, mais ce sont des investisseurs. Tout Congolais devient investisseur. Et ça, c'est très important parce que ça va nous apprendre à épargner. Si je sais que j'ai l'opportunité de fructifier mes 50 dollars, au lieu de les dépenser à faire n'importe quoi, ben, je vais investir.
Mmh.
Et quand
on devient dans les projets de quelqu'un,
oui. Et quand on devient investisseur, mais alors, on a des revenus. Et on participe à la création des entreprises solides dans notre économie. On améliore, on devient acteur du développement économique du pays. Vous voyez? Tout ça. Mais pour que cela fonctionne, Monsieur Jody, il nous faut un cadre réglementaire et légal adéquat.
Ça, on n'en a pas encore.
Ça, on n'en a pas. Et c'est ça qui freine. Moi, j'ai mes étudiants à l'Université protestante au Congo où j'enseigne le cours de marché financier ou alors analyse de la performance, que ça soit financière, sociale ou environnementale, ou le rating institutionnel. Ils veulent investir. Ils ont créé leur groupe. Ils veulent ça. Mais ils n'ont pas de cadre.
Il faut une loi qui encadre cela.
Il faut une loi. Et le chef de l'État, dans son discours, donc je l'ai proposé aussi lors de l'atelier, je lui ai dit, il nous faut vraiment, il faut nous aider à avoir ces cadres-là. Et il l'a dit dans son discours sur le pacte national, qu'il va y avoir une loi spécifique pour les financements. Et ce serait très important, parce que les jeunes sont là. On dit qu'il n'y a pas d'emploi. On dit que les jeunes sont errants. Moi, je crois aux jeunes Congolais. Ils ne sont pas passifs. Ils imaginent. Mais il faudrait que quelqu'un dise pourquoi pas. Vous vous souvenez de la citation? Certains, d'autres imaginent
d'autres
le monde.
D'autres disent pourquoi, mais d'autres disent pourquoi pas.
Donc, il faut que le gouvernement dise pourquoi pas. Il faut que l'Assemblée nationale dise pourquoi pas en mettant en place une loi. Il faut que les politiques publiques disent pourquoi pas. Il faut que la Banque centrale dise pourquoi pas. Pour mettre en place ces cadres-là qui vont encadrer ces genres de financement.
Bien, nous parlons aujourd'hui de comment faciliter l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs. Notre invité est professeur Dédé Aliango, secrétaire général académique Leadership Academia et spécialiste en inclusion financière, entrepreneuriat et développement. Des questions et préoccupations, le standard est ouvert. Composez les 099-706-99-41. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net.
Radio. Okapi.
Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, qui sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Okapi.
Comment faciliter l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs? Vous avez des belles idées, mais parfois vous n'avez pas d'argent, vous savez pas comment développer votre idée. Eh bien, notre invité est venu nous proposer d'autres formes de financement au lieu de recourir toujours aux banques qui parfois ont posent des conditions inaccessibles aux jeunes. Papi Mboyo nous appelle depuis la ville de Mbandaka. Bonjour Papi.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à madame la professeure. Bonjour. Vraiment, nous étant les ressortissants de l'université, quand on a déjà des professeurs au niveau des studios, vraiment, nous, on s'exprime, hein. Vraiment, là, on n'a pas à craindre d'être contredit. Vraiment, nous saluons beaucoup sa présence et ça nous réconforte. Et surtout que c'est, le sujet, c'est dans notre diocèse aussi, parce que moi, j'ai fait la gestion des entreprises ici, Cali, de Mbandaka. Vraiment, monsieur, je dis de tout d'abord, j'aimerais faire un petit aperçu sur le sujet avant de passer dans mes petites questions que l'invité va devoir éclairer la lanterne. J'aimerais dire ceci. Si le problème de financement, comment l'obtenir pour l'emploi des jeunes, aujourd'hui, ça devient c'est comme si des slogans, permettez-moi le terme, c'est comme si des slogans au Congo. Et surtout que c'est un domaine qui est vraiment très flexible, monsieur Jody. C'est vraiment un domaine aussi très complexe d'entrepreneuriat. Vous serez d'accord avec moi que les gens qu'on peut citer, les gens qui ont beaucoup de moyens au monde, ce ne sont pas les bureaucrates ou les administratifs. C'est plutôt les hommes d'affaires. Même à Kinshasa, vous n'allez pas me convaincre en disant tel monsieur, tel directeur de cette entreprise, celui le millionnaire, non. Mais on vous dira, même le Bill Gates aux États-Unis, non, on peut dire partout au monde, les gens qui ont beaucoup de moyens, ce sont les gens qui ont entrepris, on peut dire les entrepreneurs. Mais au Congo, vous amenez des sujets comme ça, entrepreneuriat des jeunes. Hier, le chef de l'État a tout bossé, entrepreneuriat des jeunes.
Papi Mboyo, alors, quelle est la question que vous adressez à l'invité?
Merci beaucoup. Comme vous voulez que je passe tout droit à la question, voilà, je suis en train d'aller dans la question.
Okay.
Cher professeur, oui. Avec beaucoup de respect que nous vous devons, j'aimerais que vous m'expliquiez la différence entre le financement participatif vous avez recité deux sortes de financements. Il y avait le financement participatif et l'autre financement de quoi?
Voilà, et puis financement.
Là, vous allez me donner la.
Oui, elle a parlé du financement participatif et financement alternatif.
Et alternatif, oui. Je voudrais dire, la première question est par là. Tu nous donnes la différence entre les deux. Et en donnant cette différence, qu'elle arrive aussi, ça va aussi dans ma deuxième question, qu'est-ce qui est plus facile pour l'entrepreneuriat des jeunes? Et de toi, troisième question. C'était pour la question, comment est-ce que madame la professeure pense à suggérer le gouvernement pour pérenniser cette activité dans la planète des jeunes? Voilà moi ce que moi je pouvais en avoir comme un petit souci. Que madame arrive à nous éclairer. Merci beaucoup, monsieur Jody.
Bien, merci monsieur Mboyo. Christian, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation, Christian?
Vraiment, je salue l'invité. Tout d'abord, le problème, c'est quoi? Je voudrais tout d'abord avoir ton numéro de contact. En plus de ça, je vais demander à notre invité pourquoi on ne sait pas créer une banque d'innovateurs pour avoir des financements par...
Oui, une banque.
Subvention, s'il vous plaît.
Oui, une banque pour les innovateurs.
Oui.
Ok.
Pour avoir des financements par subvention.
D'accord. Une autre question?
Oui. Ok, ça va. Moi, je me limite là-bas.
Merci, Christian. Mathieu Mukoma, vous êtes à Kolwezi, dans le Lualaba. Bonjour.
Oui, bonjour, bonjour.
On vous écoute.
Oui, bonjour, bonjour.
Oui, on vous capte pas très bien. Je vais vous demander peut-être de bouger un peu. Ça peut nous permettre de bien vous entendre, Mathieu. Allez-y.
Oui, moi je vais aller tout droit.
Oui.
Je voudrais demander à l'autre. C'est tout nous les jeunes, parce que peut-être on va envoyer, mais il y a des initiations, ça, comment il peut faire, c'est ça la question. Pour notre invité.
Oui, pardon, on vous a pas très bien entendu là.
Ça a été très dur.
Oui. Pouvez-vous reprendre la question, s'il vous plaît?
Oui, je vais reprendre. Je disais.
Allô?
Oui, je reprends.
Oui, allez-y. Non, je pense qu'il y a un souci.
Il y a un souci.
On n'arrive pas à très bien vous capter, monsieur Mukoma, désolé. Professeur Dédé, vous avez la parole.
Alors, merci beaucoup, chers auditeurs. La première question, c'est les deux sortes de financement. Je vais y revenir parce que je l'avais expliqué au début.
Oui.
Donc, j'ai dit que les financements alternatifs, c'était des financements qui sortaient du circuit bancaire classique.
Mmh.
D'accord? C'est une autre forme de financement que les financements qui sont octroyés ou offerts par les institutions financières. Et les financements participatifs, ce sont des financements que l'on obtient des individus. J'ai donné les modèles de P2P. OK, mais qui font partie des financements alternatifs. Donc, les financements participatifs font partie des financements alternatifs. Et dans les financements participatifs, je parlais de crowdfunding, crowdlending et le crowd equity. Maintenant, si vous me posez la question, lequel des trois est le meilleur, tout dépend du projet que vous proposez et de ce que vous voulez exactement. Si vous voulez des dons pour votre projet, alors c'est le crowdfunding. Si vous avez besoin juste d'un prêt pour démarrer vos activités, alors là, vous aurez besoin du crowdlending.
Mmh.
Et si vous ouvrez votre capital à d'autres investisseurs pour qu'ils prennent participation, alors ça sera les crowd equity. Okay? Alors, comment pérenniser les financements de jeunes. Déjà, il faut commencer à avoir un cadre qui peut faire qu'on organise déjà ces financements, parce qu'on ne peut pérenniser que quelque chose qui existe.
Oui.
Pour l'instant, ce n'est pas encore implémenté au niveau de la RDC. C'est pourquoi nous faisons ce
plaidoyer-là
pour la mise en place d'un cadre légal pour qu'on développe ce genre de financement.
Est-ce que vous avez approché les députés, par exemple?
On est en cours de ça.
Mmh.
Ok. Alors, autre chose, c'est que, en plus de la réglementation, dans la réglementation, il doit y avoir certaines règles qui facilitent la viabilité. Par exemple, il faut alléger la fiscalité. J'en ai parlé ici.
Oui.
On ne peut pas mettre la même fiscalité parce qu'on veut encourager les financements de jeunes. Et dans le cadre du pacte, c'est quelque chose qu'il faudra vraiment voir et mettre cela en avant. Alléger, par exemple, la fiscalité. Le cadre réglementaire doit aussi tenir compte de certaines populations vulnérables. Par exemple, de personnes vivant avec handicap par exemple, les femmes dans une certaine condition, parce que je me dis que être femme ne veut pas dire tout de suite être vulnérable. Je suis pas vulnérable, moi. donc, les femmes dans une certaine condition, dans certaines conditions, par exemple, dans des zones où il y a des troubles, ok, des jeunes aussi, des œuvreux et toutes ces choses-là. Donc, du coup, dans ces cadres-là, on peut intégrer des traitements particuliers par rapport à ça. Mais aussi, il faut qu'il n'y ait pas trop de règles, parce que l'excès des législations peut aussi freiner, en fait, l'élan et le potentiel de ces financements-là. Toutes ces choses vont aider à pérenniser l'appui. Le soutien, ça, moi, je ne m'en fais pas puisque le président l'a dit. Donc, on le prend au mot, c'est le premier citoyen, il l'a dit, il le fera. L'engagement pour soutenir le jeune dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est important. Former aussi les jeunes. Le financement, c'est bien, mais il y a des préalables.
On ne peut pas vous donner l'argent comme ça.
On ne peut pas vous donner l'argent comme ça. Il faut de préalable, il faut que les incubateurs fassent vraiment leur travail, former les jeunes en inclusion, en éducation financière, en gestion d'entreprise, en gestion marketing, en beaucoup de choses.
En communication.
En communication.
Y a beaucoup de choses.
Voilà, pour que les entreprises soient viables. Alors, il y avait une autre question de notre auditeur. Je vais retrouver la question.
Christian de Lubumbashi, qui avait besoin de vos contacts. Et puis, il dit, pourquoi ne pas créer une banque des innovateurs? Voilà.
Et il ajoute, et c'est ça qui m'a un peu, il
pour
ajoute.
Pour octroyer des subventions.
Pour octroyer des subventions. OK.
Un instant, professeur. Espérant Bombo est en ligne depuis Mbandaka. Bonjour, Espérant.
Oui, bonjour, bonjour.
On vous écoute.
Je crois que cette fois-ci...
Oui, cette fois-ci... oui, qu'est-ce qui marche?
Je ne sais pas.
Je n'ai pas dit la connexion. La thématique est assez pertinente. Je dois aller tout droit aux questions. Quelles sont les conditions requises qu'un entrepreneur doit remplir pour avoir des conditions? Tout ça, une question, j'appelle...
Conditions à remplir pour accéder à un financement, c'est ça?
Oui, quelles sont les conditions à remplir pour avoir l'accès à un
financement? Voilà, pour être financier. Merci, professeur.
Ok, je continue avec pourquoi pas créer une banque d'innovateurs pour avoir des financements.
Des subventions, oui.
Par subvention. Vous dites déjà créer une banque. Une banque, une institution financière. Ok, ça veut dire que cette institution financière doit être elle-même viable pour continuer à octroyer des crédits et d'autres services financiers. Et donc, moi, j'aimerais qu'on se parle comme Congolais. Je pense que prochainement, peut-être si vous le voulez bien, on parlera des affaires, de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un monde de philanthropie. L'entrepreneuriat, c'est faire des affaires.
Le business.
C'est du business.
On veut gagner, quoi.
Voilà. Si tu veux gagner, il faut savoir donner. Si tu veux gagner, il faut savoir travailler. Si tu veux gagner, il faut t'impliquer. Et donc, cette mentalité de toujours s'attendre à ce qu'on nous donne une subvention, qu'on nous donne en microfinance, parce que je suis experte en inclusion financière, en microfinance, on parle de l'argent froid. L'argent froid et l'argent chaud. L'argent froid, c'est la subvention. Parce que quand on reçoit l'argent froid, on s'est pas battu pour. On a l'impression que ça se trouve quelque part
et puis
on me les donne.
Oui, oui.
Et je n'ai pas à rembourser. Il faut que celui qui veut faire le business quitte cette mentalité-là. Il faut que tu travailles. Il faut que ça t'écoute. Il y a une institution financière en Belgique qui a son mantra, c'est l'argent coûte l'argent.
L'argent coûte l'argent.
Ah. Okay. Donc, il faut savoir que quand tu veux de l'argent, il faut de l'argent. Je veux bien des subventions pour le primo-entrepreneur, peut-être des kits de démarrage et toutes ces choses-là, mais ne comptez pas trop sur les subventions. Travaillez. Il faut travailler. Il ne faut pas s'attendre qu'on me donne. Il faut que je donne. Qu'est-ce que je donne? Par exemple, pour le prêt. Prends un prêt et arrange-toi. Fais ton business. Rembourse le prêt.
Mais il y a certains banques ou institutions qui veulent vous prêter l'argent. Ils veulent que vous-même, vous puissiez déjà financer à une certaine hauteur.
Effectivement.
Et puis, ils peuvent...
Mais effectivement, c'est une garantie financière. Mmh. Ça montre aussi que vous prenez les risques avec eux. Ils ne peuvent pas prendre les risques toutes seules.
Oui, tout à fait.
Donc, vous devez prendre les risques avec eux parce qu'elles-mêmes, elles ont des normes prudentielles. Dans le crédit qu'ils vous octroient, elles ont un niveau de capital à respecter. Les ratios de capital à respecter. Donc, vous aussi, quand vous venez, vous devez prendre vos précautions. Donc, chers amis, chers jeunes, vous êtes à mesure de développer des entreprises durables, solides, mais il faut vous dire que je dois me battre et que je ne dois pas attendre tout. Je ne dois pas juste me dire, on va me donner les subventions et je vais avancer. Vous n'allez pas ressentir la douleur de cet argent-là. Oui.
Vous avez parlé du financement alternatif, financement participatif, mais il faut un cadre légal pour que cela puisse être exécuté. Mais déjà, je peux dire que dans les pactes sur l'emploi et l'entrepreneuriat, cela a été pris en compte.
Oui. Okay. Cela a été pris en compte, le président était clair. Hein. Clair, il a dit qu'il faudrait une loi sur le financement. C'est d'ailleurs pourquoi nous accrochons à cela, à cette promesse-là, pour parler, pour faire le plaidoyer, pour mobiliser les législateurs, pour dire il faut qu'on y aille. Et les jeunes sont là, ils attendent. Et c'est maintenant qu'il faut y aller. Parce qu'on ne peut pas attendre plus longtemps. Les projets sont là. Ils ont besoin de financement. Ils ont besoin d'encadrement. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on...
Maintenant, la plateforme digitale qui mettra en relation les entrepreneurs et les bailleurs, ça doit être une initiative de l'État ou des particuliers?
Non, des particuliers qui peuvent créer
des plateformes,
comme ça. C'est pourquoi ça doit être encadré. Pour éviter d'abord les abus, mais aussi pour essayer d'encadrer cela.
Bien, on est arrivé presque à la fin de cette émission. Professeur, un message à tous les jeunes entrepreneurs qui vous écoutent de partout à travers le pays.
Alors, chers jeunes entrepreneurs, je sais que vous avez le cœur pour ce pays et que vous voulez changer de choses là où vous êtes. Un peu comme Georges Bernard Shaw qui dit, vous imaginez le monde tel qu'il devrait être et vous vous dites pourquoi pas. Continuez à vous dire pourquoi pas. Il y a un dicton chinois qui dit, la vision sans les actions, c'est un doux rêve. Tant que vous allez continuer à rêver, ça ne va pas se réaliser, ça restera un rêve. Et ces dictons rajoutent que les actions sans la vision, c'est un cauchemar. Donc, si vous commencez à agir sans une vision claire, vous allez tout droit vers le mur. Donc, je vous encourage à travailler sur vos projets, à vous former, parce qu'il vous faut cette formation, acquérir de compétences et de connaissances, et aussi à nous soutenir dans ce que nous faisons pour plaider pour qu'il y ait ces plateformes vous aidant à mobiliser les ressources nécessaires pour créer des entreprises solides.
Bien, professeur Dédé Aliango, secrétaire général académique Leadership Academia et spécialiste en inclusion financière, entrepreneuriat et développement. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans Okapi Service. Espérons que vous allez encore revenir prochainement pour aller encore en profondeur, parler de ce type de de ces modèles de financement.
Quand vous voulez.
Qu'on n'a pas encore expérimenté ici en RDC. Bien, dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission de la vie au quotidien.